Chapitre 22. La réponse qui était la bonne. Une pièce secrète sur un monde indéterminé. Et un homme dont le plan a fini par se réaliser. Le premier orateur tourna son regard vers l'étudiant. Ils étaient 50. Des hommes, des femmes, dit-il, 50 martyrs. Il savait qu'il risquait la mort en faisant cela, ou l'emprisonnement à vie. Et nous ne pouvions même pas les aider, compenser leur faiblesse. Réorienter leur mental eût été nous trahir. Et pourtant, ils n'ont pas faibli. Ils ont mené le plan à son terme, par amour du plan supérieur. Aurait-on pu réduire leur nombre? Demanda l'étudiant d'un air peu convaincu. Le premier orateur secoua lentement la tête. C'était le strict minimum. Au-dessus de ce nombre, il leur aurait été impossible d'entraîner la conviction. Une parfaite objectivité aurait exigé un nombre de 75 pour tenir compte de la marge d'erreur, mais peu importe. Avez-vous étudié le déroulement de l'action tel qu'il a été élaboré par le Conseil des orateurs voilà 15 ans? Oui, orateur. Et vous l'avez comparé aux développements actuels? Oui, orateur. Puis, après un court silence, il ajouta: Je suis absolument confondu, orateur. Je sais. Votre étonnement ne me surprend pas. Si vous saviez combien d'hommes ont travaillé pendant des mois, que dis-je des mois, des années, pour donner à cette œuvre le fini de la perfection, vous seriez moins étonné. Maintenant, expliquez-moi, en parlant cette fois, ce qui s'est passé. Je désire que vous traduisiez cela du langage mathématique. Oui, orateur. Le jeune homme ordonna ses idées. Il était primordial de persuader les hommes de la première fondation qu'ils avaient démasqué la seconde fondation et qu'ils étaient parvenus à la détruire définitivement. De cette façon, ils recouvreraient leur initiative originelle. À tout point de vue, Terminus perdrait la notion de son existence et ne nous ferait plus intervenir dans aucun de ses calculs. Une fois de plus, nous nous retrouvions à l'abri des regards, au prix de la perte de 50 hommes. Et le rôle de la guerre kalganienne? Quel était-il? De démontrer à la Fondation qu'elle était capable de vaincre un ennemi physique, d'effacer les dommages causés à son amour-propre et à sa confiance en soi par le mulet. Votre analyse est incomplète sur ce point. Souvenez-vous. La population de Terminus nous considérait avec une nette ambiguïté. D'une part, elle haïssait et jalousait notre supériorité présumée. Et d'autre part, elle s'appuyait implicitement sur nous pour sa protection. Si nous avions été détruits avant la guerre kalganienne, la panique se serait déclarée à travers toute la Fondation. Il n'aurait jamais eu le courage suffisant pour résister à Stettin lorsqu'il aurait déclenché son attaque. Ce qu'il n'aurait pas manqué de faire. C'est seulement dans l'euphorie de la victoire que cette destruction pouvait avoir lieu avec le minimum d'inconvénients. Un délai consécutif d'un an aurait été trop long. L'enthousiasme retombé, nous aurions perdu notre meilleure chance de succès. L'étudiant hocha la tête. Je vois. Ainsi l'histoire va reprendre son cours sans dévier, dans la direction indiquée par le plan. À moins d'incidents imprévus de caractère individuel, fit remarquer le premier orateur. Et pour y parer, dit l'étudiant, nous serons toujours là. Pourtant, tout de même, il y a un aspect bien particulier de la situation présente qui m'inquiète encore, orateur. La première fondation est toujours en possession du générateur de champs psychostatiques, une arme redoutable. Voilà en tout cas qui serait de nature à changer la donne. Votre remarque est pertinente. Mais, faute d'adversaire, cet artifice devient sans objet. De même que, Privés de l'aiguillon de la menace que faisait peser sur eux notre influence, l'analyse encéphalographique deviendra une science stérile. D'autres variantes de la connaissance leur apporteront des résultats plus tangibles et plus immédiats, si bien que la première génération des spécialistes de la science psychique sera aussi la dernière. D'ici un siècle, le brouilleur psychostatique ne sera plus qu'un souvenir enseveli dans des archives poussiéreuses. Eh bien, l'étudiant s'empressa d'examiner mentalement la situation. Je suppose que vous avez raison. Mais le point sur lequel je désire attirer votre attention, jeune homme, pour le plus grand bien de votre avenir au sein du Conseil, c'est l'importance que nous avons accordée aux infimes interférences qui ont affecté notre plan au cours des 15 dernières années, en raison du fait que nous devons tenir compte des réactions individuelles. C'est ainsi que Pelléas Antor devait attirer les soupçons sur sa personne de manière telle que ces soupçons viendraient à maturité au moment approprié. Mais cela, c'était relativement simple. Nous devions également manipuler l'atmosphère régnant sur Terminus de telle manière que nul ne soit averti prématurément que la planète pourrait bien être l'objet des recherches. Cette notion devait être installée à la jeune Arcadia, dont seul son père aurait ensuite la garde. Par la suite, il a fallu l'expédier sur Trantor pour prévenir tout contact prématuré entre le père et l'enfant. Ces deux êtres constituaient en quelque sorte les deux pôles opposés d'un moteur hyperatomique dont aucun ne réagissait sur l'autre. Il fallait actionner le commutateur, provoquer le contact, très exactement au moment prévu. J'ai veillé à ce qu'il en soit ainsi. Et il convenait que la bataille finale pût être convenablement menée. Les équipages de la flotte de la Fondation ont vu leur morale exaltée, cependant que ceux de Kalgan étaient conditionnés pour la défaite. J'y ai veillé également. Orateur, il me semble que vous, enfin je veux dire, que nous tous ici comptions sur le fait que le docteur Darrell ne soupçonnait pas Arcadia d'être notre instrument. Si j'en crois la vérification à laquelle je me suis livré sur nos calculs, il y avait 30 chances sur 100 qu'il soupçonne la vérité. Que se serait-il passé dans ce cas? Nous avions prévu cette éventualité. Que vous a-t-on enseigné exactement à propos de ce palier qui apparaît sur l'encéphalogramme des sujets réorientés? De quoi s'agit-il? Ce palier n'indique en aucun cas une déformation émotionnelle. On peut tout à fait procéder à cette opération sans qu'il soit possible de la détecter, fût-ce par la plus précise et la plus délicate des analyses encéphalographiques. C'est la conséquence du théorème de Leffert, comme vous le savez. C'est le prélèvement, la suppression d'une tendance émotionnelle existante qui seule laisse des traces. Cela, par contre, c'est inévitable. Et bien entendu, Antor a fait en sorte que Darrell soit pleinement informé de cette manipulation. Cependant, dites-moi, à quel moment peut-on conditionner un individu sans que la chose soit visible? Lorsqu'il n'existe aucune tendance préalable qu'il soit nécessaire d'extirper. En d'autres termes, lorsque l'individu est un enfant nouveau-né, dont le cerveau est encore une cire vierge. Il y a 15 ans, Arcadia était précisément un nouveau-né, ici même, sur Trantor, à l'époque où nous posions la première pierre du plan. Elle ignorera toujours qu'elle a été conditionnée et ne s'en trouvera que mieux, puisque ce conditionnement impliquait le développement d'une personnalité précoce et intelligente. Le premier orateur se permit un petit rire de contentement. En un certain sens, c'est le côté paradoxal de toute l'affaire qui est le plus stupéfiant. Pendant 400 ans, tout le monde a été obnubilé jusqu'à l'aveuglement par l'expression qu'avait employée Seldon, l'autre bout de la galaxie. Ils ont employé toutes les connaissances physiques qu'ils avaient alors à leur disposition pour tenter de résoudre le problème. Ils ont essayé de mesurer l'autre bout avec leurs règles et leurs rapporteurs, soit pour aboutir en un point situé à 180 degrés sur le périmètre de la galaxie, soit pour revenir tout simplement à leur point de départ. Cependant, le plus grand danger que nous encourions résidait dans le fait qu'il existait bel et bien une solution possible, basée sur une conception strictement physique de l'univers. La galaxie n'est en aucune manière un objet ovoïde de forme lenticulaire. Sa circonférence ne constitue pas davantage un circuit fermé. Il s'agit, en réalité, d'une spirale double. D'ailleurs, 80% des planètes habitées se situent le long du bras principal. Terminus se situe à un bout de cette spirale principale, et nous à l'autre. En effet, l'autre bout d'une spirale, qu'est-ce donc, en définitive, sinon son centre? Mais cela, c'est un détail. Cela n'a aucune importance. C'eût été une solution accidentelle et fortuite. La véritable solution aurait pu être trouvée immédiatement, si seulement les chercheurs avaient voulu se souvenir que Harry Seldon était un spécialiste en sociologie et non un physicien, et s'ils avaient ajusté leur raisonnement en conséquence. Que pouvait signifier l'expression « l'autre bout » dans la bouche d'un sociologue? Des points diamétralement opposés sur la carte? Non, bien entendu. Ce serait là une interprétation purement mécanique. La première fondation se trouvait placée sur la périphérie, à l'endroit où l'empire originel était le plus faible, où sa civilisation exerçait son influence avec le moins d'efficacité, où sa richesse et sa puissance étaient pratiquement absentes, où se trouve alors, socialement parlant, l'autre bout de la galaxie. C'est évidemment l'endroit où l'empire originel était le plus puissant, où sa richesse et sa culture étaient le plus fortement représentées. Ici même, en plein centre, sur Trantor, métropole de l'empire à l'époque de Seldon. Il ne pouvait en être autrement. Harry Seldon avait laissé derrière lui la seconde fondation avec mission de maintenir, d'améliorer, de développer son œuvre. Voilà 50 ans qu'on le sait, ou du moins qu'on le devine. Mais où donc ce programme pouvait-il le mieux se réaliser? Sur Trantor, où le groupe de Seldon avait travaillé et où s'étaient accumulés les documents recueillis au cours des décennies. Et c'était le rôle de la seconde fondation de protéger le plan contre ses ennemis. Cela, on le savait également. Et où se trouvait la source des plus grands dangers qui menaçaient Terminus et le plan? Ici. Toujours ici. Sur Trantor, où l'Empire, quoique agonisant, aurait pu encore pendant 3 siècles détruire la Fondation, s'il avait pu s'y décider. Puis, après la chute, la mise à sac et la destruction totale de Trantor, il y a de cela à peine 1 siècle, nous avons pu naturellement protéger notre quartier général. De toutes les infrastructures de la planète, seule la bibliothèque impériale et les territoires attenants sont demeurés intacts. Curieux, vous ne trouvez pas? Le fait était d'ailleurs bien connu de toute la galaxie, pourtant cet indice hautement révélateur est passé totalement inaperçu. C'est ici même, sur Trantor, qu'Ebling Miss nous avait découvert, et c'est encore ici que nous avons fait en sorte qu'il ne survive pas à cette découverte. Pour ce faire, nous avons dû nous arranger de telle sorte que les pouvoirs extraordinaires du mulet soient annihilés par une jeune fille tout à fait ordinaire issue de la Fondation. Un exploit aussi phénoménal n'aurait pas manqué d'attirer les soupçons s'il s'était produit sur une autre planète. C'est ici que nous avons pour la première fois étudié le mulet et échafaudé les plans qui devaient provoquer sa défaite finale. C'est ici qu'est née Arcadia, et que s'est amorcée la chaîne des événements qui allait déterminer le grand retour du plan Seldon. Et si tous ces défauts de notre cuirasse, ces trous béants, sont passés inaperçus, c'est tout simplement parce que lorsque Seldon avait parlé de l'autre bout, il avait une certaine idée en tête et que l'on comprit autrement. Depuis longtemps déjà, le premier orateur ne s'adressait plus véritablement à l'étudiant. C'était à lui-même, en réalité, que s'adressait cet exposé. Debout devant la fenêtre, il contemplait l'incroyable luminescence du firmament, cette vaste galaxie qui avait maintenant retrouvé pour toujours la sécurité.
« Harry Seldon appelait Trantor Finistelle, »
murmura-t-il.
« Là où finissent les étoiles. Pourquoi pas, après tout ? C'est une belle image, vous ne trouvez pas ? L'univers tout entier obéissait autrefois aux directives venues de ce minuscule caillou, perdu dans l'immensité de l'espace. Toutes les routes des étoiles convergeaient jadis ici même. Tous les chemins mènent à Trantor, dit un proverbe de l'Antiquité. Et ici, les étoiles finissent-elles.
8 mois plus tôt, le premier orateur s'était trouvé très exactement dans la même situation. Il contemplait alors, comme aujourd'hui, ce formidable amoncellement d'étoiles. Nulle part aussi dense qu'au centre de ce gigantesque amas de matière que l'homme appelle la galaxie. Il avait alors le cœur empli d'appréhension. Mais à présent, en dépit de sa gravité, une authentique satisfaction était clairement lisible sur la face ronde et rubiconde de Prim Palver, premier orateur de la seconde fondation.
Merci et à bientôt chez Audible.